Bonjour à vous, auditrices et auditeurs de Jazz Exploration, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je reçois Afilo et Maxime Blaisin, organisateurs de la première édition du Belgian Jazz Festival au Théâtre du Vaudeville, un écrin pour le jazz belge. L'interview, c'est après le générique. Bonjour Maxime Blaisin et Afilo.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer à Jazz Exploration. C'est un plaisir de vous recevoir.
Merci de nous avoir invités, c'est un plaisir d'être là.
On va parler de plusieurs sujets avec vous, mais peut-être avant de rentrer dans le détail, est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites pour ceux qui ne vous connaîtraient pas déjà?
Moi je m'appelle Maxime Blaisin, je fais de la musique et je fais du jazz entre autres, mais je me sens musicien avant tout. J'ai donc grandi en Belgique et puis je suis parti à 18 ans au Brésil et en fait j'y ai habité, j'ai commencé à étudier vraiment la musique sérieusement là-bas. Et après je suis revenu à Anvers, j'ai étudié au Jazz Studio et puis je suis parti un peu à Boston et puis à 25 ans je suis revenu ici. J'ai tout de suite commencé à jouer et voilà, donc ça fait 25 ans que je fais ça.
Waouh. Pour laquelle on se voit aujourd'hui, c'est que vous êtes à l'initiative d'un nouveau projet ici à Bruxelles, le Belgian Jazz Festival. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en fait sur cette initiative, parce que Bruxelles, on a la chance, et la Belgique même au sens large, d'avoir quand même une concentration d'offres sur le jazz qui est assez impressionnante quand on ramène ça à la taille du pays, au nombre de gens et tout qui sont là. Et donc vous apportez une nouvelle proposition ici. Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé pour mettre en place cette initiative et quelle est la particularité de cette initiative?
Ben en fait c'est né d'un constat déjà. C'est en effet il y a énormément d'offres et puis donc moi je suis quand même sur la scène depuis longtemps. J'ai quand même vu une évolution dans le jazz depuis, je dirais, ces 15 dernières années. C'est qu'en fait, il y a de moins en moins peut-être de jazz comme tête d'affiche dans les festivals qui se disent jazz. Et donc, par conséquent, il y a de moins en moins de Belges aussi. Parce que j'ai l'impression que ce qui est en train de changer, c'est qu'il y a une... peut-être, je ne sais pas si c'est une professionnalisation, mais en tout cas, une tentative de starification de certains musiciens de jazz, d'ailleurs plus sur le champ, etc., qui n'avaient pas avant, clairement pas avant, parce que moi, je me rappelle avoir été... que Wynton Marsalis, il le fait toujours, mais que Wynton Marsalis, il venait jouer aux Beaux-Arts, et puis il partait, et il venait jamais avec nous dans les petits endroits. Et moi, en tant que jeune musicien, j'ai vraiment... Tout le monde le faisait, ça, quoi, en fait. les gens viennent jouer en Belgique et on sort après et on va pas à l'hôtel machin, on continue à jammer Royal Grove, enfin tout le monde quoi. Et j'ai l'impression que donc ces dernières années, dans les gros festivals, comme il y a des gros enjeux et parce que des enjeux aussi financiers, j'ai l'impression que la starification est un peu obligatoire pour faire venir des gens et pour être rentable, puisque c'est ça aussi que ces gens-là recherchent. Donc, à partir de ce constat, nous on s'est dit, faisons premièrement du jazz. Les stars en Belgique, voilà, c'est les stars. Donc, je veux dire, il n'y a pas de stars, entre guillemets, dans le jazz. Donc, nous, on est restés, je pense, à la base de cette musique. C'est-à-dire que c'est vraiment un savoir qui se transmet de manière orale. Et qu'en fait, justement, les jams se retrouvent ensemble. C'est une grande famille. Et qu'on a vraiment voulu retrouver cet esprit dans un festival. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un espace pour ça, et donc on a décidé de l'appeler le Belgian Jazz Festival. On a décidé en anglais parce que ça c'est compliqué puisqu'on a trois langues.
Multilingue, ouais.
On a trois langues nationales, donc c'était un peu.
C'est de trouver un compromis.
Voilà. Ouais. Donc pourtant on a réfléchi, hein, mais on s'est dit là c'est trop compliqué. Donc on l'a appelé le Belgian Jazz Festival, mais en même temps c'est bien parce que comme il y a tellement d'étudiants d'un peu partout dans le monde qui viennent au conservatoire ou au Lemens ou enfin n'importe où, la langue du jazz en Belgique elle est quand même pas mal basée sur l'anglais, puisqu'on se rencontre, oui, il y a des Chinois, des Japonais, des Taïwanais, des Portugais, des Italiens, des Brésiliens. Et l'anglais, c'est quand même, ça marche bien pour ça. Mais par contre, justement, donc c'est Belgian Jazz, mais ce n'est pas réservé que aux Belges. C'est-à-dire que toute personne qui a élu sa résidence en Belgique est susceptible de jouer dans notre festival.
Oui, c'est plutôt quand on dit Belgian Jazz, c'est pas pour les Belges, c'est plus des gens qui ont décidé de s'installer et de vivre ici plutôt qu'une question de nationalité, quoi. C'est important de le préciser, effectivement. Ouais.
Et dans le premier festival, ça se voit déjà dans la programmation, puisqu'il y a Victor da Costa qui est brésilien, qui est ici depuis 30 ans, je crois. Qui est venu étudier au conservatoire, qui n'est jamais reparti. Il y a Armando Luongo, qui est d'origine italienne. Umberto Odone est aussi italien. Je vais en oublier plein. Renato Martins, qui est aussi brésilien. Donc dès la première édition, on voit que c'est assez large.
Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, on en avait parlé. Enfin, j'ai eu la chance d'assister à la conférence de presse du lancement du festival. Et justement, c'était un point que vous aviez évoqué en disant que pour vous, le jazz belge, c'était aussi ça. C'était ce multiculturalisme, ces horizons divers qui sont particulièrement marqués, notamment à Bruxelles, qui est une ville internationale par excellence, quoi.
Je pense que c'est vraiment la particularité du jazz belge. C'est-à-dire que on est un croisement, évidemment, on est un croisement dans l'Europe, mais aussi dans le monde, parce qu'on a ce côté justement convivial et un peu village, tout en ayant énormément d'avantages d'une grande capitale européenne. Et ça brasse beaucoup de monde et ça permet les échanges. Et surtout, je pense que par rapport, parce que moi j'ai aussi habité un peu en France et dans d'autres pays, je pense que on fonctionne pas du tout avec des castes, c'est-à-dire que on se mélange quelques styles que ce soit en jazz ou d'origine, etc. Et aussi de génération, tout le monde se mélange. Et ça pour moi c'est vraiment une des particularités de la Belgique.
Donc ce festival, il se tiendra les
5 et 6 avril 2024.
Pour la première édition, ça aura lieu au Théâtre du Vaudeville, super endroit. C'est bien d'avoir aussi un lieu.
Bah oui, c'est. On voulait un lieu central et c'est un endroit historique, c'est un endroit classé qui est magnifique, qui se trouve dans les galeries de la Reine. Et donc justement, ça, c'est le choix. Ça n'a pas été facile, hein, Enfin, si, en fait, ça a été facile. Je dis ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que quand on a trouvé le théâtre du Vaudeville, c'était évident que c'était là qu'on allait le faire. Mais je dis ça, c'est pas facile de bah, comme c'est la première édition en termes de budget, etc. Il faut. On verra. C'est un peu la surprise.
Au niveau
fréquentation.
Équilibre. Ah, au niveau fréquentation, oui. Ouais. Bon, en tout cas, bravo pour ça. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'y aller pour un événement privé là-bas, et c'est un super endroit. Et du coup, pour faire un festival, c'est un bel écrin. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est super de pouvoir avoir un endroit, parce que je suis convaincu. On parlait de la fréquentation du jazz, etc., mais au sens large des spectacles, je suis convaincu qu'il y a des gens convaincus qui, de toute façon, adorent cette musique, adorent ces expériences-là, et vous pouvez jouer dans la rue, n'importe où, ils viendront. Mais il y a aussi une part de gens qui pourraient venir, qui sont pas des convaincus mordus, etc. Et d'avoir un lieu, ça peut aussi permettre de les attirer et de les faire venir, et peut-être même de les faire découvrir des choses qu'ils auraient pas découvert sinon. Donc c'est super de pouvoir le faire.
Ouais, on a déjà la confirmation de ça, parce que c'est vrai que quand on en parle, on en parle partout autour de nous. Et dès que je monte les photos, ou alors que je dis le Vaudeville, les gens font « Ah, au Vaudeville, oui, je connais cette salle, ah, génial !» Et oui, ça attise en effet la curiosité, et c'est vrai que c'est une... Je pense que pour rentrer dans le jazz, toutes les portes d'entrée sont bonnes.
C'est ça, il n'y a pas de...
Voilà, et c'est pour ça aussi qu'on s'est associé à des bons produits
j'allais
belges.
J'allais venir. non, mais vas-y, c'est
parle,
bien.
Je parle beaucoup.
C'est bien, il y a aussi cet aspect-là, mais vas-y, continue.
Ouais, donc on voit ça aussi vraiment comme quelque chose d'un événement global, et donc on a donc la brasserie de la Seine et le domaine du Chenois qui sont associés. Donc le domaine du Chenois, c'est un vignoble dans la région de Namur qui fait vraiment du très très bon vin, et donc ça fait c'est un tout, c'est sûr que ça peut amener des gens à venir, et tout d'un coup à se rendre compte qu'en fait ils adorent le jazz, et que quand ils disent qu'ils n'aiment pas le jazz, ou alors qu'ils ne le connaissent pas, c'est juste par préjugé. D'ailleurs, je ne sais pas d'où ça vient, ces préjugés, mais ils sont encore un peu tenaces, de moins en moins quand même. Je vois aussi
ça s'ouvre.
Ouais, je vois qu'aussi dans la plus jeune génération, c'est beaucoup plus ouvert, et qu'il y a le mot jazz est moins connoté. Mais c'est vrai que quand moi j'ai commencé jazz, il y avait plein de gens qui disaient « Quoi, du jazz ?» Et maintenant, le jazz englobe tellement de choses. En fait, pour moi, la définition du jazz, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'improvisation. Et à partir de ce moment-là, c'est du jazz. Et ça veut dire qu'en fait, peu importe le rythme qui se trouve derrière, que ça peut être brésilien, afro, funk, etc. S'il y a de l'impro, c'est du jazz. Parce que chaque concert est différent, en fait.
Magnifique. Donc, quels ont été d'ailleurs les grands... c'est vrai qu'on se rend peut-être pas forcément compte, quand on est spectateur, on vient à un festival, tout est organisé, tout est mis en place, on n'a que, entre guillemets, à payer son entrée, puis on profite. Quels sont les grandes barrières, les grandes difficultés, les choses à penser quand on organise un festival comme ça déjà, depuis combien de temps vous vous êtes lancé dans cette aventure pour arriver à proposer une première édition là en avril, et voilà, quelles ont été les différentes étapes?
Donc moi je sais pas, je ne trouve pas qu'il y ait eu des barrières, parce que on organise ça vraiment comme on organise une fête chez soi. On organise, on connaît tous les musiciens de jazz, on les invite à venir se produire sur scène et à donner le meilleur d'eux. Donc les barrières, il n'y en a pas vraiment. On demande des sponsors pour nous aider à payer les deux, trois choses qu'il faut régler. Évidemment, on a besoin d'argent pour avancer, c'est clair. Et le fait qu'on ait ces sponsors pour nous aider, ça peut être éventuellement le seul problème, c'est qu'il faut sortir l'argent au
Bien
départ.
Sûr, ouais.
Mais sinon, des barrières, il n'y en a aucune, en fait. Tout est ouvert. Et moi, je ne sais pas ce que t'en penses, Max. Il y a des barrières?
Ben, comme on fait ça quand même depuis longtemps, et qu'on a quand même un peu d'expérience, c'est-à-dire que c'est quand même très très clair dans l'organisation. Après, il y a énormément de choses à faire, hein. Donc, Je comprends la question, mais c'est assez...
Non, mais ça fait du bien d'entendre cette réponse, par ailleurs, parce que la question, je l'ai posée de manière un peu orientée, parce que j'avais des choses en tête, peut-être des préjugés aussi, et finalement, la réponse, elle est intéressante, c'est que, finalement, c'est beaucoup de temps et de bonne volonté, mais c'est pas des blocages.
Non, parce qu'en fait, mais bon, c'est le vieil adage, comment on fait ça? Ben, on le fait, quoi. il faut y aller. Si tu fais que penser au truc, ben non. Et c'est évidemment en faisant qu'on fait des erreurs et qu'on apprend. Donc, il y a énormément de paramètres, mais c'est vrai que bon, ben voilà, on se plante sur certains trucs, on se plante pas sur d'autres, et puis on corrige le tir. Moi, j'ai quand même la grande chance aussi d'aider à l'organisation du Dinan Jazz Festival. Où j'ai bien vu, parce que je lead le band qui s'appelle le Dinan Jazz Orchestra, et c'est une grosse organisation, puisqu'on est 9 personnes et qu'on invite chaque fois des gens. J'ai quand même bien vu aussi comment ça se passait, et ça c'est. Ça aide d'un peu voir. D'être déjà impliqué, d'avoir un pied dans le système d'organisation d'un festival avant de se lancer complètement à blanc, parce que c'est sûr que si de zéro, de toute façon c'est toujours ça, hein, c'est quand on le fait tout paraît simple. C'est comme quelqu'un qui dit ah ouais, comment on fait pour jouer de la guitare, ben
joue.
Et puis chacun a son poste entre guillemets. Il y a des choses dans lesquelles moi je suis meilleur, et puis d'autres dans lesquelles Maxime est bon pour faire des dossiers. C'est Monsieur Dossier,
c'est
donc
pas mal,
il s'y colle. Moi, je suis plus relation. Je vais passer les coups de fil, prendre les rendez-vous, acheter ce qu'il faut et tout ça. Et voilà, on se donne chacun les postes, et ils sont cochés dès que c'est fait, et on avance comme ça.
Très bien.
O seu único jeito de cantar, voando pelo ar, dá vontade de sambar. O violão como base pra swingar, o tempo a pesquisar fez sua arte sublimar. O seu único jeito de cantar, voando pelo ar, dá vontade de sambar. Violão como base pra swingar, o tempo a pesquisar fez sua arte sublimar. Eu vou lá, laia, 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 zum, gum, gum, dum, din, din, zizi, oi, 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 também, ia, ia, lá.
Quelle est la programmation pour, tu parlais de quelques noms au niveau des différentes nationalités, en tout cas qui étaient représentées, mais la programmation plus en détail sur les deux jours, quelle est-elle?
Alors, le vendredi, ça commence avec Nathalie Laurier en trio, donc avec Fabrice Allemann et Nicolas Theis. Et le deuxième groupe, donc le vendredi, en tout cas cette année, on n'a que deux groupes. Dès l'année prochaine, je pense qu'on en mettra trois. Et le deuxième groupe, c'est Igor Geno, donc pianiste, avec Salvatore La Rocca à la basse, Umberto Odone, donc qui est d'origine italienne, super batteur, qui vient de terminer le conservatoire, je crois, à la batterie. Il y a Steven Delannoy au sax ténor. Et il y a normalement c'est Jean-Paul Estievenard, mais son remplaçant c'est Grégory Houben. Donc ils font un quintet plutôt hard bop, donc c'est marrant parce que aussi les gens qui connaissent pas le jazz, souvent hard bop, on leur dit ça. Oh là, non, ça j'aime pas. En fait, le hard bop est très accessible, justement, c'est des mélodies assez simples et c'est vraiment de l'interaction, c'est un super groupe. Nathalie Laurier, elle vient, c'est une des meilleures pianistes en Belgique, hein, et elle est là depuis une trentaine d'années, je crois. Et elle vient donc avec des compos et avec Fabrice Allemann et Nick Theis, qui sont aussi des tauliers du jazz belge, ça va vraiment être super. Et le samedi, On commence avec Bart De Voort et Victor D'Acosta Quartet. C'est bien parce que c'est un quartet qui est collidé, donc c'est assez rare. Et puis surtout, ils ont cette particularité qui, je rigole un peu, mais c'est vrai que c'est marrant, ils jouent beaucoup, mais ils n'ont jamais enregistré de disque. Donc ça va venir, mais ça fait 20 ans qu'ils jouent ensemble. Donc il y a Armando Luongo à la batterie, qui est aussi d'origine italienne, pareil, il a fait le conservatoire, il est resté. Et Victor Foulon à la contrebasse. Ensuite, il y aura Lorenzo Di Maio, qui, comme son nom ne l'indique pas, il est belge.
Mais il est d'origine italienne.
Il est d'origine italienne. C'est vrai que ça fait beaucoup d'Italiens. Mais bon, la Belgique et l'Italie, on est.
Ah bah oui, ça c'est
on est très lié. Moi-même, j'ai du sang lointain italien. Donc il y a Lorenzo avec Wajdi Riahi, qui est d'origine tunisienne, qui aussi a fait le conservatoire ici. Incroyable pianiste. Pierre Urti à la batterie, qui lui est d'origine française. Et à la contrebasse, il vient avec Cédric Raymond, qui est un musicien d'exception, vraiment, qui est producteur, qui fait énormément de choses et qui joue du piano, qui a fait le conservatoire aussi en piano et en basse, en contrebasse, et qui, pour moi, est un des plus grands musiciens en Belgique. Et ensuite, bah, il y aura mon groupe, où c'est un mix entre le jazz et le shoring, donc c'est une musique traditionnelle brésilienne. Alors, je sais pas si j'ai un peu de temps pour en parler.
Bien sûr, okay. on va même rentrer dans le détail après.
Ok. donc, c'est avec Renato Martins, percussionniste brésilien qui est arrivé il y a 20 ans ici, qui a joué avec le Cirque du Soleil, avec plein de gens, qui est vraiment incroyable. Je pense qu'il est vraiment unique. Il joue du houdou, donc c'est cette espèce de vase en terre cuite, du caron, donc c'est une caisse en bois. Mais si vous tapez son nom, Renato Martins, vous allez voir qu'en fait il joue avec tout, avec des cuillères, des verres, des couvercles de casserole.
De faire un rythme.
Oui, c'est vraiment incroyable. Et il y aura aussi, comme son nom ne l'indique pas non plus, Pierre Gillet, mais qui a du sang brésilien. Et qui joue de la guitare 7 cordes, qui est un instrument vraiment traditionnel brésilien. Il y aura Greg Houben qui sera à la trompette. Et alors moi, je ne serai pas à la guitare, je serai au cavaquinho 5 cordes. Donc le cavaquinho, c'est une petite guitare d'origine brésilienne, qui est donc d'origine de Madère en fait, mais qui est énormément jouée au Brésil dans la samba, dans le shoring, dans tous les styles en fait.
D'accord. Wow. Et donc, il a un petit nom. T'as fait un nom composé pour ce groupe, c'est ça?
Voilà, c'est le mix entre du shoring et le jazz. Et on a enregistré un album. Enfin, on a enregistré deux albums, pardon. J'ai dit Choraz, non?
Choraz, non.
Ah, j'ai pas dit, c'est pas vrai. Donc oui, c'est Choraz le nom.
Choraz.
Et voilà, donc si j'ai un peu de temps, je raconte l'histoire.
Mais bien sûr, t'as tout le temps que tu veux.
Voilà. En fait, en 2000, donc j'habitais un peu à Paris, je suis revenu en 2003, je pense, et il se fait que j'ai habité au-dessus d'un... Enfin, dans l'appartement au-dessus d'un musicien brésilien qui s'appelle Osman Martins, et qui était un peu le maître du cavaquinho, je pense même en Europe, parce qu'il est vraiment exceptionnel et percussionniste. Je parle au passé parce que malheureusement, il est décédé le 25 décembre 2022. Et à l'époque, il y a donc presque 15 ans, j'avais un studio d'enregistrement et j'ai fait deux ou trois sessions, je ne sais plus, mais sans savoir ce qu'on allait jouer avec Osman. Moi, je m'étais mis à la guitare 7 cordes, donc instrument brésilien. Steve Houben, donc le papa de Grégory, et Renato Martins. Et on a enregistré une vingtaine de morceaux, je pense, mais qui ne sont jamais sortis. Et j'ai essayé de trouver des labels, etc. Mais en fait, c'était tellement peu définissable que tout le monde disait « Ah, super, mais comment est-ce qu'on va vendre ça ?» Enfin, c'est de la musique qui est vraiment... très spécial. Et comme c'était il y a 15 ans, je pense qu'on a fait beaucoup de chemin
sur les fusions.
Ouais, au niveau de l'ouverture, c'est incroyable parce qu'il y a 15 ans, c'était vraiment ultra segmenté. C'est-à-dire que tu faisais du bebop, tu faisais du jazz moderne, tu faisais... et en fait, c'était... Le business marchait encore, j'ai envie de dire, à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait encore des labels et on vendait des disques, etc. Donc, quelque part... Alors, je sais que peut-être que je vais m'attirer les foudres de quelques personnes, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus sain au niveau de la créativité parce que c'est moins... C'est-à-dire que si on veut faire quelque chose et sortir quelque chose, on peut le faire. Maintenant, c'est vrai que les revenus, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, au niveau créativité, je trouve qu'il y a quand même des espaces, je pense, qui n'existaient pas il y a 15 ans. C'est marrant parce que je fais un tout petit aparté, mais j'ai entendu Ron Carter qui disait ça dans une interview pas longtemps, qui disait « Mais en fait, on vit un moment incroyable parce que moi, je faisais des disques, j'étais payé une misère et j'allais chez le disquaire et je voyais que j'étais partout dans les disques. Je savais même pas qu'on m'enregistrait. » Parce qu'ils étaient en studio tout le temps et surtout ils disaient, et puis on devait surtout faire ce que le producteur disait, quoi. Donc même en jazz donc je reviens à la session. Donc on a enregistré ça et puis finalement petit à petit c'est resté dans un tiroir et puis Osman est parti le 25 décembre 2022 comme je l'ai dit et je me suis dit bon là il faut vraiment que ça sorte parce que c'est quelque chose de incroyable, c'est vraiment un disque super. D'ailleurs, j'ai refait écouter à Steve et il m'a dit c'est le meilleur album que j'ai jamais enregistré parce qu'il joue de la flûte dessus et il joue que de la flûte, il joue pas du sax. Et donc on s'est dit on va le sortir et mais surtout en fait il y a ce principe de filiation qui est vraiment important parce que moi, avec Osman, j'ai fait des centaines de concerts, mais donc lui toujours au Cavaking. Et donc je me suis dit, mais en fait, je vais commencer le Cavaking. Et ça reste qu'une guitare avec. On en parlait tout à l'heure. Il faut juste le faire. Comment tu joues du Cavaking? T'achètes un Cavaking.
Et tu joues.
Donc voilà, je m'y suis mis. Et en fait, en janvier 2024, donc maintenant, là, on a refait 3 jours de session avec Pierre Gillet, Grégory Houben. Parce que malheureusement, Steve ne peut plus jouer de flûte. Et donc moi, au Cavaking. Et donc, on va faire un double album, vraiment basé sur le passage. C'est marrant parce que j'ai pas fait exprès en plus d'en parler tout à l'heure, mais vraiment sur cette transmission qui, pour moi, est vraiment la base du jazz, en fait. De jouer avec des gens et d'apprendre en jouant avec des gens. Et puis soi-même aussi de transmettre à d'autres et que dès qu'on prend la parole, je veux dire, je mets plein de guillemets puisque c'est pas la parole, mais c'est dès qu'on joue avec d'autres gens, en fait, le fait de jouer a un impact sur les autres et inversement. Et donc, c'est vraiment cet échange et cet échange, en fait. J'avais un autre mot en tête, mais c'était je sais pas quoi.
Interplay.
Ouais, Interplay. Ah oui, il y a des albums qui portent ce nom et qui sont incroyables.
Et donc, du coup, ça va être un double album. Donc, il va y avoir, je sais pas si tu veux rentrer dans le détail là, mais une première galette de l'enregistrement historique, entre guillemets, et la nouvelle mouture sur un autre.
Exactement.
Ok.
Choraz, en fait, c'est plutôt nous trois. Et donc, là, on invite Steve et on invite Greg, etc. Et puis, on laisse un peu la chose ouverte, c'est-à-dire que. En fait, le son vraiment du groupe, c'est Cavaking, guitare 7 cordes et percussion. Donc, on se laisse toutes les possibilités pour l'avenir. Et surtout, on a des concerts qui vont arriver à partir de l'automne. On croise les doigts, mais on prépare une petite tournée au Brésil aussi pour aller montrer ce qu'on fait. Et voilà. Et puis, c'était surtout aussi dans l'idée de se dire, allez, maintenant, on y va et en fait on sent que c'est le bon moment parce que comme je l'ai dit auparavant, je pense qu'il y a comme tu disais, il y a plus de fusion, il y a plus d'espace pour d'autres musiques et en tout cas pour un mélange quoi.
Et ça donc Choraz c'est cette nouvelle mouture et du coup le premier enregistrement c'est ce qui s'appelait Bras Avant ou...
Ah non, ça c'était
ça c'est encore autre chose.
Okay. Ça c'était à Grégory et Houben et Stéphane Pougin. Et là, pareil, on joue en trio, mais on a fait des versions avec beaucoup plus larges. On a joué sur la Grand Place en 2004, je crois, avec Phil Abraham, Steve Houben. Il y avait Beau Waterscott à la basse Estefan, et puis on a fait un peu plein de trucs variables. On a joué au festival de Dinan aussi. Mais oui, mais c'est vrai que ça termine. Bah, il y a le.
Bah, en tout cas, il y a ce goût visiblement pour le mot valise qui compresse.
Le haz
de jazz et puis autre chose, d'autres influences visiblement. Et puis j'ai vu aussi sur ton site internet que tu préparais des choses en solo.
Ouais.
Toujours avec. Alors là, pour le coup, on n'est pas tellement sur de la fusion. À part, là, on est vraiment sur de la musique traditionnelle brésilienne, dans l'esthétique en tout cas.
Oui, mais en fait, oui. Mais
qui peut être considéré comme du jazz par ailleurs.
Ouais, je. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'avance, je crois que ça va être beaucoup plus large que de la musique brésilienne. Ouais.
Ouais.
Parce que j'arrive à un moment où. Parce que j'ai un gros souci. Je ne sais pas si c'est un souci, mais je suis vraiment un mélomane et j'écoute. Vraiment des styles très différents de musique. D'ailleurs, c'est Cédric Raymond, une fois, qui était venu chez moi et qui était mort de rire en regardant, parce que j'ai encore décédé, en regardant ce que j'avais. Il dit, mais enfin, mais c'est, t'écoutes, enfin, parce que j'écoute du classique, j'écoute du rap, de la soul, du R&B, des, je sais pas, tout, en fait. J'adore du rock, voilà. Du funk metal. Du
funk metal.
Ouais. Ouais, Red Hot Chili Peppers, c'est ouais. Fishbone et ce genre de trucs. Ouais. Donc, avec Vernon Reid, qui est un super guitariste important pour moi. Et voilà, donc je suis très éclectique. Donc, je pense que ça va être. Je sais pas encore si je vais faire plusieurs albums avec des styles différents ou alors si je vais faire une espèce de. Ouais, de gros melting pot qui sera tout en restant le plus authentique possible.
D'accord, d'accord.
Criado no outro mundo, por acaso parei no Rio de Janeiro, que é bonito, de Cosme Velho até Corcovado. Gritei no Fla-Flu. Andei lá no morro e chorei no Império Cerrado. Namorei tudo apaixonado. É a cidade que eu amo tanto. A grande sorte do meu destino. Sou do Rio. Amigos de Madureira.
Mais donc effectivement, tu es hyper impliqué dans plein de projets de fusion. Pour l'instant, rien n'est sorti en album. Alors, il y a des choses sur Internet. Je remettrai les liens vers ton site et puis vers la page YouTube pour que les gens puissent voir ce que tu proposes au-delà de tes albums.
Mais surtout que sur YouTube, là je vais vraiment commencer à... D'ailleurs, j'ai passé la journée d'hier, mais c'est une nouvelle compétence, mais à essayer de mettre des caméras et je vais essayer de sur ma chaîne de balancer dans l'océan qui est YouTube des petites gouttes d'eau plusieurs fois par mois. Je vais essayer voilà.
D'accord. Donc, bah écoute, je mettrai en tout cas le lien pour que les gens puissent venir voir. Par contre, tu as quand même gravé dans le dur des albums, mais là on est sur des choses plus vraiment, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais plus jazz.
Si, c'est complètement jazz, ouais.
Notamment le dernier album que tu as sorti qui était en 2023. C'était Organic Matter, c'est ça. Donc voilà, là il y a aussi cette proposition là que tu fais un peu à part entre guillemets de.
Qui est un
même
peu...
si on est quand même sur quelque chose qui est, enfin, à l'écoute. C'est pas non plus dans la tradition pure et dure.
Non
déjà.
Ben là sur le dernier, je me suis un peu amusé, j'ai quand même mélangé. Pas mal de trucs, je chante aussi dessus.
C'est funky, c'est un peu gospel, c'est un peu...
Ouais.
Enfin, il y a plein de choses.
Ouais, il y a peut-être un peu trop. Mais
non, c'est super. Ah, moi, j'ai trouvé super. Hein.
Ouais. Ok. Moi, je suis hyper content aussi parce que c'est vraiment en moi. Et justement, comme je disais que j'avais plein d'influences, j'ai quand même essayé de garder une couleur qui fonctionne. Et je pense que ça, il y a... Je veux dire, c'est pas une soupe avec tous les restes du frigo, quoi. C'est pas ça. C'est quand même... Il y a une direction. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'influences. Et j'arrive juste à un moment où je peux commencer à tout mêler parce que j'ai fait un album avec Stéphane Mercier aussi en 2019 d'un groupe qui s'appelle State of Time, mais c'est sorti en février 2020, oui, donc c'était en 2020 ou je sais plus, décembre 2019 je crois, fin décembre. Et comme tout le monde sait, c'était pas la période la plus géniale pour faire des concerts. Donc, on a fait un concert avec un pianiste d'ailleurs qui vient de New York, Manu Koch, d'origine suisse, super pianiste. Mais voilà, ça a été un peu tué dans l'œuf. C'est dommage parce que là, c'était un peu plus funky. Mais bon, c'est difficile de relancer la machine après ces presque 2 ans, en fait.
Sans... Bah oui.
Ça a été complexe. Quoi.
Oui, et puis ce que je, parce qu'avant aussi, il y a un album, j'ai fait un groupe aussi qui s'appelait Bop and Soul Sextet, mais qui lui est vraiment un hommage justement au hard bop, etc. Donc le but c'était pas de faire de la musique complètement nouvelle, mais c'était vraiment de s'amuser et puis mais en faisant quand même des compositions, parce que ça c'était important. Et puis surtout c'était une instrumentation, c'était avec Eric Pro, super saxophoniste français de Mâcon. Hans Van Oosterhout à la batterie, Sal Larocca, Pascal Moï, Grégory Houben. Et en fait, dans le hard bop, souvent, on fait des arrangements à 3 voix, et souvent, c'est plus trompette, sax ténor, trombone ou alto, etc. Et en fait, là, j'ai vraiment voulu intégrer la guitare dans la section.
Ah oui, 3 voix.
Voilà. Mmh. Mais ce qu'on a fait, en fait, aussi avec Stéphane, hein, le State of Time, c'est qu'on joue beaucoup de choses à 2 voix, guitare et sax alto. Et en fait, Stéphane, on se connaît tellement bien depuis tellement longtemps que bah d'ailleurs ça donne vraiment envie de rejouer ensemble, hein, que d'en parler. C'est qu'en fait il y a un truc de la guitare où j'utilise un peu de distorsion, mais enfin un tout petit peu overdrive, et avec le sax alto qui, en fait, comme c'est une hanche qui vibre, ça fait un peu distorsion. Et en fait, les deux se mêlent tellement bien, c'est vraiment trop chouette à jouer.
Donc toutes les informations sur ta musique et sur tes concerts, on peut les trouver sur ton site internet, ou est-ce qu'on peut trouver l'information si on veut venir voir tes projets?
Ouais, sur mon site qui est pas du tout à jour, mais que pareil, il va être à jour très bientôt.
D'accord.
Parce que je fais. Mais sinon, j'ai un label aussi, et là, c'est beaucoup plus à jour, en fait. Malheureusement, je pousse plus le label en avant.
Qui s'appelle
Orphéna Musique.
Ouais. Donc vous avez créé votre propre label.
Ouais, ça fait 12 ans déjà.
Ouais.
Et ça, ben, ça correspond un peu à ce que je disais, en fait, tout à l'heure. Il y a une 15aine d'années, c'était plus compliqué. Puis c'est vrai que maintenant, on voit tout le monde crée son label, en fait.
Ouais. Hein.
Parce qu'il y a...
Ça permet à chacun de faire exactement ce qu'il a envie de faire, quoi.
Ouais. Après, c'est sûr que c'est un gros boulot. Et la preuve, c'est que, enfin, je dis que mon site est pas à jour parce que je mets le label en avant et que, voilà, je fais les sites. On fait, je veux dire, les journées.
Ne font que 24 heures.
Ouais. Et puis, en plus, avec, on a des enfants.
Ouais.
Et donc, c'est quand même assez chronophage, même si ça le devient de moins en moins. Donc du coup, là, maintenant, c'est pour ça que...
J'ai vu qu'il y avait un crédit sur une de tes photos qui était Nome et Blaisin. Du coup, j'en ai déduit que c'était... Vous avez également mis vos enfants à contribution.
Ouais. C'est vrai. Il y a d'ailleurs une deuxième photo qui va sortir de Nome et Blaisin, parce qu'elle aime bien l'audiovisuel, elle aimerait bien faire son métier. Donc elle commence un peu.
Pas tomber loin de l'arbre.
Ouais, non, pas trop.
D'accord. En tout cas, merci. Enfin, du coup, les prochaines dates, donc, tu vas jouer au festival en question, donc ce sera l'occasion de venir te voir. Quelles sont les prochaines actualités pour vous? Tu disais qu'il y avait des choses qui te préparaient pour l'automne.
En été, j'ai une grosse actualité.
D'accord.
C'est qu'en fait, donc, je suis le leader du Dinan Jazz Orchestra, et cette année, on a un invité. Et il s'appelle Joe Lovano. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot, puisqu'on va faire, on est à plusieurs. On va faire les arrangements, les répètes, et ce sera enregistré aussi par la RTBF, etc. Donc ça, c'est la grosse actualité. Et puis la veille, je joue avec mon nouveau quartet. Donc c'est plus ou moins le même quartet que Organic Matters. Sauf qu'en fait, c'est plus Daniel Junkers à la batterie, c'est Franck Agulon, mais c'est beaucoup plus funky, en fait. Et ça, c'est le samedi 27 juillet, donc au Dinan Jazz. Le 28, il y a Joe, on joue avec Joe Lovano. Et alors en automne, là, il y a plein de choses qui vont arriver. On va notamment jouer pas mal avec Choraz. Je vais jouer aussi en... On va jouer avec Choraz en trio aussi.
au kaléidoscope de la guitare de Rick Sansard. J'ai pas mon agenda ici, hein, mais je remettrai
voilà. De toute façon le lien vers le site, mais ça permet d'avoir les grandes idées, et que bah, les auditeurs qui seraient intéressés par les différents projets que tu portes puissent déjà prendre date.
Ouais, et puis il y a toujours sur YouTube, comme je dis, donc je pense que très bientôt il va y avoir les premières vidéos qui vont arriver. Donc ça, c'est Maxime Blaisin en fait, mon channel. Et sur Spotify aussi, il y a moyen, puisque je vais, je pense, commencer à sortir, en plus de ce que je fais, peut-être des petits singles un peu. Parce qu'en fait, on parlait du projet solo, mais je suis aussi en train de penser à faire des petites choses en solo, mais pas solo, live nécessairement, de faire un peu de re-re, parce que comme je joue du cavaking, de la basse, de la batterie,
ouais.
Un peu m'amuser.
Ouais, c'est une bonne idée.
Et faire... des tests.
En tout cas, il y a déjà 3 morceaux qui sont disponibles sur ton site en solo.
Oui.
Où tu donc t'accompagnes et chantes.
Oui.
Donc ça, c'est un peu nouveau entre guillemets. Enfin, nouveau en tout cas en publication. Enfin, historiquement.
Ouais.
T'es identifié comme instrumentiste.
Oui, oui. Mais
non.
Oui, oui.
Ah puis tu rigoles. Pourquoi?
Si, je suis. Pourquoi rigoles?
Non, t'as l'air d'être pris un peu au dépourvu.
Non, peut-être parce que en fait, il se voit chanteur depuis toujours et que c'est ma question qui est bête. Hein.
Je me vois chanteur depuis toujours, en fait. Mais il y a des choses qui vont sortir plus au chant. Mais ce qui se passe, c'est que le projet solo, donc jazz, c'est assez récent, mais c'est pas si récent que ça. C'est pour ça que je veux vraiment en mettre plus. C'est-à-dire que c'est assez complexe parce que moi j'adore aussi le jazz, les standards quoi. Et donc en dehors du fait que je veux aussi faire des compositions et chanter etc., le fait de me retrouver avec ma guitare et de pouvoir chanter tous les standards, ça me plaît énormément. Mais c'est un boulot assez conséquent. Donc je m'y suis mis il y a longtemps et je commence à être content.
Ça c'est la malédiction des gens qui sont intéressés par trop de choses.
Exactement. Mais là je commence vraiment à être content et je commence à parce qu'en fait le truc c'est de maîtriser la basse, les accords et le chant en même temps et de pouvoir dissocier les trois. C'est un gros exercice et il y a rien de mystérieux, mais il faut juste
le faire. On y revient toujours.
Ouais, et jouer, et c'est ce que je fais. Et voilà, ça commence à sortir, et c'est vraiment chouette. Mais j'ai fait quand même quelques concerts aussi, hein, au centre culture. Enfin, ça m'arrive quand même. J'en fais pas trop la pub encore parce que je suis pas hyper satisfait de moi. Ça veut pas dire que ce soit mauvais. Hein, c'est juste un truc de l'éternel insatisfait. Hein. Mais là, ça commence à sonner. Et ce que j'aime vraiment bien dans ce projet solo, c'est qu'en fait, c'est complètement presque acoustique. Et qu'en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des projets solo avec des machines, etc. Et moi, je suis vraiment en dissociation totale de la machine. C'est-à-dire que j'essaye de me dédigitaliser le maximum et de me nomadiser le maximum. Mmh.
Bon, en tout cas, tu as une super voix.
Merci.
Moi, j'ai trouvé ça hyper
en
sympa.
En interview
à écouter.
Ou au chant?
En plus, ce que j'ai trouvé. Alors, ça, pour l'interview, les gens le diront quand ils t'entendront. Mais en tout cas, pour les morceaux que tu as mis, en fait, pour le coup, tu as une voix chantée qui est assez différente de ta voix parlée. Ça fait une. Enfin, quand on t'a entendu parler avant, ça fait une surprise, une belle surprise quand on écoute. Et puis en plus avec le
Merci.
Portugais. Non mais
non je
on peut plus rien dire. mais du coup pour et en plus le portugais a ce côté un peu doux en plus quand on rajoute l'ambiance brésilienne par-dessus on rentre vraiment enfin, en tout cas je suis rentré dedans ces morceaux de suite.
Allez super ouais. mais je vais faire je continue un tout petit peu dans mes explications parce qu'en fait je mets pas beaucoup de choses pour l'instant. On en discute beaucoup avec Yafi aussi, c'est que comme j'ai appris la musique au Brésil et appris à chanter, c'est vrai que j'ai quelque chose qui est un peu caractéristique brésilien dès que je chante. Et je l'avais en anglais aussi. Et en fait, les choses sur lesquelles j'ai le plus travaillé ces derniers mois, c'est d'en fait pouvoir avoir le même truc en anglais et en portugais. Et là, là, je suis content, ça y est. Et c'est pour ça que je vais commencer à faire les choses, parce que c'était un peu schizophrénique, quoi. Je chantais des standards, c'était... Enfin, moi, j'ai beaucoup écouté Sinatra, Nat King Cole, j'ai pas du tout leur voix, hein, je vous rassure. Mais je veux dire, c'était une influence. Et puis, Jean Gilberto et Chico Buarque et tout ça, c'est vraiment mes grosses influences. Et c'est vrai que c'est... Faire un lien, bah, ça met juste du temps, en fait. Je pense que c'est ça.
Avec ouais, ta personnalité, temps. Quelle voilà. que soit la langue utilisée, quoi.
Voilà. Mmh. Mais ouais, tout ça, il faut l'assimiler. C'est le temps d'assimilation. À partir du moment où il y a beaucoup d'influence, qui est d'autant plus long. Quoi.
Ouais, ouais, tout à fait. Je comprends bien. En tout cas, merci beaucoup à vous pour votre temps. Merci pour cette initiative aussi, parce que même s'il y a déjà beaucoup de choses, je pense que d'en avoir de plus en plus et dans des contextes et des configurations différentes, ça, c'est toujours enrichissant, c'est toujours un plus. Donc, bravo pour ça. Et puis, bah, je remettrai tous les liens, en tout cas, vers le site du festival pour que les gens puissent voir, se rendre compte. Venir, c'est important, surtout pour une première édition. Ben voilà, si on veut que ça perdure dans le temps et que ça s'inscrive dans le temps, qu'il y ait des gens qui viennent vous voir. Et puis par ailleurs aussi, tout ce dont on a parlé au niveau de ta carrière, parce que c'est foisonnant, on l'a bien compris, et donc c'est d'autant plus, en tout cas à mon avis, intéressant. Voilà, il y a tellement de choses à creuser que voilà.
Je sais pas encore. Oui.
Vas-y.
Bah, moi, je voulais aussi vraiment te remercier pour ce que tu fais, parce que c'est hyper important, parce que je pense que la musique, le fait d'en jouer, il faut qu'il y ait tout un contexte, il faut qu'il y ait des portes d'entrée, et ce que tu fais, c'est vraiment des super portes d'entrée. Et c'est interdépendant, et ah ben bah voilà, c'est ça, c'est ce
mot-là
dont je veux,
oui.
Tu vois, sur...
je le couperai, je le mettrai à l'endroit où tu
voulais. Voilà, et c'est le principe même de la vie et de ce qui nous entoure, quoi. C'est l'interdépendance du vivant, et que tout le monde a sa place, et que tout le monde fait des choses, et que c'est comme ça qu'on se sent vivant. Et moi, c'est vraiment pour ça que je fais de la musique. Sur mes activités, je vais encore dire une chose, c'est que si vous allez sur orfenamusique.com, il y a des choses assez marrantes, parce que je fais un label, mais je fais aussi j'ai fait un peu de musique de film, j'ai été coach musical dans des films, j'ai fait des jingles, etc. Et j'ai tout mis là-dessus, donc c'est...
Ok. Merci beaucoup.
Merci à toi, Thomas.
Merci d'avoir écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Vous voulez aider le podcast à se développer? C'est très simple, il vous suffit de vous abonner, de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser des commentaires. À très bientôt, je vous laisse sur le titre Organic Matter de Maxime Blaisin.